Les enjeux internationaux.
Si vous voulez chanter, Thierry,
il n'en est pas question. Je casserai les vitres. Donc notre invité, Benoît Pélistrandi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien de l'Espagne. On va parler évidemment des premiers enseignements des législatives, les législatives répétées 6 mois après les précédentes. Alors est-ce qu'elles ont clarifié la situation? Vous allez nous le dire. Ou n'ont-elles fait que déplacer certains curseurs? De toute façon, il faudra qu'un jour ou l'autre un gouvernement soit formé et le Parlement entrerait en fonction, j'ai noté, le 19 juillet. Alors les résultats très rapidement, avec 14 sièges de plus qu'en décembre dernier, le Parti populaire crée la surprise, remportant 33% des voix, 137 sièges, contre 28% précédemment, mais 45% des voix s'étaient dirigées en 2011 vers lui, et évidemment, c'était le moment où Mariano Rajoy devenait président du gouvernement. Le Parti socialiste, que l'on disait parfois menacé d'éclatement, s'en sort mieux que prévu, même s'il plafonne à quelque 22%, j'arrondis les chiffres, et s'il perd 5 sièges, passant à 85 sièges. Et puis là aussi, c'est important, la coalition Unidos Podemos, c'est-à-dire les communistes et les écologistes plus Podemos, avec 21% des voix, n'obtient, elle, cette coalition, que 71 sièges. C'est un paysage éclaté.
Oui, le bipartisme était mort. Vous avez rappelé le résultat de 2011 où le Parti populaire était à 45%. Le Parti socialiste s'était effondré à 28%. Mais en 2008, le Parti socialiste était à 43% et le Parti populaire à 40%. Donc les deux grands partis avaient 83% de l'électorat. Et là, à ces élections du 26 juin, le Parti populaire et le Parti socialiste, traditionnel donc parti de gouvernement, obtiennent à eux deux 55% des voix. Alors, la surprise de ces élections, c'est quand même le redressement du Parti populaire, qui est le seul parti à gagner des voix, près de 700 000 voix gagnées entre décembre et juin. Et contrairement à ce qu'annonçaient les enquêtes, Unidos Podemos n'a pas réalisé ce qu'on appelle le sorpasso, un mot d'origine italienne, mais qui est devenu un terme du vocabulaire politique espagnol, et le Parti socialiste est resté la première force à gauche. Alors ça c'est très important parce que si les enquêtes ne s'étaient pas trompées, et si Unidos Podemos était devenu la première force de gauche, c'était un tremblement de terre politique absolument considérable. Alors, bien entendu, il y a une déception du côté d'Unidos Podemos, mais l'alliance avec les communistes, même s'ils ont perdu 1 million de voix par rapport à décembre, leur a permis de maintenir intacts leurs 71 sièges, car s'il n'y avait pas eu cette alliance, avec le système électoral proportionnel au plus fort reste, incontestablement, la gauche radicale aurait perdu entre 10 et 15 sièges, et le Parti populaire en aurait glané encore 5 ou 8 supplémentaires.
Il y a deux questions très, très rapidement, Benoît Pélistrandi. Est-ce que Podemos, tout seul, est vraiment un parti de gouvernement, ou c'est parce qu'il est le résultat d'une émanation de la société civile? Et est-ce que cette coalition avec les écologistes, les communistes, etc. Est-ce que c'est une coalition de circonstances?
Alors, Alberto Garzón, l'ancien patron de Izquierda Unida, qui s'est rallié donc à Pablo Iglesias, dit que ce n'est pas une coalition de circonstances et que ça doit devenir une structure de la gauche et d'une gauche plurielle. La difficulté, c'est que Pablo Iglesias a un peu mené une campagne de caméléon et il a dit à chaque auditoire ce que l'auditoire voulait entendre.
Oui, il a un côté, comme ça, quand on le lit, même avec ses formules à l'emporte-pièce, il a un côté radical-socialiste.
Oui, et il a, dans un meeting en Andalousie, eut cette formule en disant on nous accuse d'être le parti anti-système, mais le vrai anti-système, c'est ceux qui privatisent, ce sont ceux qui sont corrompus. Nous représentons la loi et l'ordre. Renversement dialectique et rhétorique absolument incroyable qui permettait de dire que la sécurité, c'était Pablo Iglesias. À tel point qu'un leader socialiste a accusé Pablo Iglesias d'être capable de revendiquer l'héritage de l'Opus Dei si ça lui faisait gagner des voix.
Oui, c'est assez drôle quand même. En ce qui concerne alors le Parti populaire, vainqueur clair, vainqueur relatif, mais vainqueur quand même.
Oui, vainqueur clair, parce qu'il est le seul à progresser. Vainqueur relatif, parce qu'ils n'ont que 137 députés. Or, la majorité absolue est à 176. Et que construire une majorité, ça s'était révélé impossible en décembre. Cette fois-ci, arithmétiquement, les choses semblent plus claires, parce que ce qu'on appelle le bloc des droites, mais c'est une vue de l'esprit, c'est-à-dire les populaires et les centristes, c'est 169 députés. Tandis que le bloc des gauches, socialiste et Podemos, ça fait 156.
Mais chacun des deux, d'ailleurs, est en situation de frères
voilà,
ennemis à l'intérieur de ces 10 blocs.
Et en réalité, Ciudadanos a répété hier son veto à Mariano Rajoy. Les socialistes n'avaient réussi au mois de mars qu'un programme de gouvernement avec les centristes. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas eu le nombre de voix nécessaires à l'investiture de Pedro Sánchez. Donc, il y a dit-on, un bloc de gauche, un bloc de droite, repérable par l'électorat, mais à l'intérieur, effectivement, des exclusions mutuelles.
Est-ce qu'on peut imaginer, parmi d'autres scénarios, un gouvernement de grande coalition, c'est-à-dire, ou de coalition, pas si grande que ça, mais entre la droite et la gauche, entre le
PSOE et la... C'est ce que demande Mariano Rajoy. Mariano Rajoy a dit qu'il voulait gouverner avec les socialistes. Mais les socialistes ont déjà répondu hier que, eux, les Espagnols les avaient placés pour être la première force d'opposition. Donc, on est dans une première phase où, actuellement, chacun va camper sur ses positions et où, du coup, les conditions du blocage politique semblent réunies. Et en même temps, tous savent que faire des troisièmes élections est absolument impossible. Donc, on entre dans une phase de négociation très importante.
C'est impossible, mais c'est possible constitutionnellement.
Constitutionnellement, c'est parfaitement possible. Vous avez rappelé 19 juillet, constitution du Parlement. Il y aura, à un moment ou un autre, un vote d'investiture. Et à partir de ce moment-là, court le délai de 2 mois, au terme duquel, si aucun président n'a été investi, le Parlement est automatiquement dissous. Et à ce moment-là, des élections sont répétées, ce qui vient de se passer. Donc, constitutionnellement, il n'y a pas de crise en Espagne. La Constitution a plutôt montré qu'elle avait la réponse à une situation de blocage. Alors, il va y avoir un acteur politique qui va jouer maintenant, c'est le roi. Le roi va faire des consultations et l'article 99 lui donne quand même une marge de manœuvre importante. C'est lui qui choisit le candidat à la présidence du gouvernement. Ce ne sont pas les partis qui peuvent lui imposer. Donc on peut imaginer que même après avoir consulté tous les partis, et même si le Parti populaire lui dit « notre candidat c'est Mariano Rajoy », que lui se rend compte qu'il n'y a pas les conditions pour une investiture de Mariano Rajoy, et à ce moment-là, il proposerait un autre nom. Ce serait une situation qui ne lui plairait pas, parce que ça voudrait dire prendre des risques considérables, alors que justement le roi doit être un arbitre. Mais peut-être sera-t-il amené à, effectivement, exercer cette prérogative royale.
L'idée, alors, dans ce cas-là, c'est qu'il choisirait un homme admis par tout le monde, fédérateur, et avec peut-être un gouvernement technique, finalement ?
Peut-être. Et de ce côté-là, ce qui va beaucoup compter, c'est le contexte européen. Mariano Rajoy a bien dit, on est dans une grave crise européenne liée.
Oui, il y a du lait sur le feu.
Et bien voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle il va bien falloir que l'Espagne, qui est une grande puissance européenne et qui est une puissance euro-enthousiaste, soit présente. Parce que si le blocage continue, l'Espagne se disqualifie et les partenaires diplomatiques de l'Espagne seront un peu consternés par cette situation. Surtout qu'on est actuellement sur des blocages vraiment de personnes. On n'est plus sur des blocages politiques, puisque les élections ont très clairement, comme vous l'avez dit, déplacer le curseur et modifier le rapport de force.
Et juste une chose, on n'a pas le temps de parler des effets du Brexit sur le vote des Espagnols, mais en ce qui concerne la question catalane ou les questions indépendantistes en Espagne, ça a joué. Qu'est-ce qui s'est passé finalement électoralement en Catalogne ?
En Catalogne, Podemos est en tête. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, et en Catalogne et au Pays Basque, où il y a une singularité régionale, ce sont les deux seules communautés autonomes où le Parti populaire n'arrive pas en tête, mais où, contrairement aux précédentes élections, c'était les nationalistes qui étaient en tête, cette fois-ci, c'est la gauche radicale. Et donc la recomposition politique n'affecte pas seulement le bipartisme traditionnel entre droite et gauche, Parti socialiste et Parti populaire, mais elle affecte aussi des régions où les partis nationalistes avaient un rôle tout à fait majeur.
Juste d'un mot, mais vraiment d'un mot, Benoît Pellistrandi, je rappelle que vous êtes historien de l'Espagne, d'un mot, on peut rejouer encore des élections d'ici à 6 mois, ou dans les 6 mois plutôt.
C'est envisageable.
Dans 6 mois, exactement.
C'est envisageable.
Ça n'est pas exclu.
Ce n'est pas exclu. Hélas pour l'Espagne.
Oui, 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 et pour tout le monde, et pour le reste de l'Europe. Merci beaucoup. Donc franceculture.fr pour écouter l'émission, pour la télécharger. Et demain, tout à fait autre chose, nous parlerons avec le directeur du bureau de représentation de Taipei en France. Nous parlerons de Taïwan avec une nouvelle présidence et une nouvelle présidente.